les chroniques bioéthiques du professeur Rosmini. Une exploration cinématographique de questions contemporaines qui nous concernent tous. Vous,
moi,
nous, pour aujourd'hui et demain. Notez bien.
Les chroniques bioéthiques du professeur Rosmini.
Donc, vous avez des Kleenex, des serviettes, une carafe d'eau, un lavabo. Vous vous installez là. Ici, vous avez tout le matériel nécessaire. Petite coupe. Quand c'est fini, vous venez me voir.
David Wozniak.
Johan Osso et David Wozniak.
Maître Chamberlain.
Entre 1988 et 1990, vous avez donné du sperme sous le pseudonyme de Starbuck. Vous avez donné 693 fois sur une période de 23 mois, en échange duquel vous avez reçu la somme de 24 255 $. Vous avez un sperme d'une très bonne qualité. Vous êtes donc le géniteur de 533 enfants, dont 142 d'entre eux veulent connaître votre identité. Vous êtes le géniteur de 533 enfants.
Qu'est-ce qu'une personne normale ferait dans cette situation-là?
Une personne normale ne serait pas dans une situation comme ça.
Je fais quoi, moi?
En tant qu'avocat, je te conseille d'arrêter d'aller te masturber dans les cliniques de fertilité.
OK? C'est le profil de 142 de tes enfants.
Chères auditrices et chers auditeurs, je voudrais aujourd'hui réfléchir avec vous sur la manière dont les nouvelles techniques d'aide médicale à la procréation bouleversent notre conception de ce qu'est la parenté, la filiation, la famille, et peut-être aussi bouleversent finalement la manière d'être soi-même, en fait, de se sentir soi-même, et comment ces nouvelles techniques d'aide médicale à la procréation posent de nouvelles questions. À cet égard, je voudrais évoquer un film qui s'appelle Starbuck, un film de Ken Scott de 2011, qui évoque le don de gamètes, qui évoque la procréation médicalement assistée avec donneurs de sperme en l'occurrence. Et c'est un film d'ailleurs qui est inspiré de plusieurs histoires vraies. C'est le film qui raconte donc l'histoire d'un certain David, dont le pseudonyme est Starbuck, qui, lorsqu'il était jeune, lorsqu'il avait une vingtaine d'années, avait donné de très nombreuses fois son sperme puisque c'était rémunéré. L'histoire se passe au Canada. Et au Canada, dans ces années-là, le don de sperme étant rémunéré, il y a des individus qui ont donné un très grand nombre de fois et donc ils se sont retrouvés être le géniteur d'un très grand nombre d'enfants. Et là, donc, l'histoire, c'est 20 ans plus tard. Donc, les enfants sont devenus de jeunes adultes. Et puis, Starbuck, donc l'individu qui se cache sous ce pseudonyme, on ne sait pas trop qui c'est, Starbuck fait l'objet d'un recours en justice de la part de 142 personnes qui sont issues de ses dons, donc 142 personnes dont il est le géniteur. Et ces 142 personnes réclament la levée de l'anonymat. En fait, elles veulent tout simplement découvrir qui est le donneur qui leur a permis d'exister. Et donc, le film est centré sur l'hésitation de David par rapport à cette question. Est-ce qu'il faut se révéler ou pas? Est-ce qu'il faut sortir ou pas de l'anonymat? Et donc, le film de Ken Scott est un film lui-même assez hésitant qui, en fait, soulève deux problèmes centraux en bioéthique. Le premier problème, c'est la signification du don. Qu'est-ce que ça veut dire que donner, par exemple, en l'occurrence, donner son sperme? Et puis, la deuxième question, c'est la notion de consentement libre et éclairé, les limites peut-être de cette notion, hein, puisqu'effectivement, pour être donneur de sperme, par exemple, il faut bien évidemment donner son consentement libre et éclairé. Or, on se rend compte que David, lorsqu'il a donné, il était très jeune. Et étant très jeune, il n'avait visiblement pas tellement réfléchi aux conséquences que pourrait avoir son acte, et notamment aux conséquences que ça pourrait avoir sur les gens qui naîtraient de ses dons. À cet égard, dans la vie réelle, il y a beaucoup d'anciens donneurs en fait, qui déclarent que, justement, ils n'avaient pas tellement réfléchi à leur acte, pas assez en tout cas. Par exemple, je vous renvoie à un livre collectif qui s'appelle « Donner et après ?» aux éditions Springer. Donc, un livre dans lequel on retrouve notamment beaucoup de témoignages d'anciens donneurs qui ont pris conscience du fait que beaucoup de jeunes qui étaient nés par insémination avec donneur étaient un petit peu perturbés par l'ignorance de l'identité du donneur. Et beaucoup de ces donneurs, justement, seraient prêts à revenir sur l'anonymat, seraient prêts à rencontrer les enfants qui sont nés grâce à leur don. Et c'est vrai que lorsque, par exemple, la loi française avait instauré le don de gamètes avec un anonymat total, on avait beaucoup pensé à l'intérêt des parents d'intention, on avait pensé à l'intérêt des donneurs, on n'avait pas tellement réfléchi à l'époque, il faut bien le reconnaître, à l'intérêt des enfants eux-mêmes et à la manière dont ils pourraient ou pas reconstruire leur histoire à partir de cet anonymat. Donc le film est construit sur un jeu de miroir entre d'un côté David, David Starbuck, donc, hein, c'est le même individu, qui est donc un sujet qui est confronté à un choix qui semble un petit peu trop grand pour lui, parce que j'ai dit que David était assez immature quand il avait 20 ans, mais quand il a 40 ans aussi, c'est un individu visiblement qui a du mal à être adulte, qu'on pourrait presque dire, qui a du mal à être vraiment un sujet, au sens où il pourrait être l'auteur de ses actes, l'auteur de ses choix. Et puis d'un autre côté, on a donc les 142 personnes issues de son nom qui, elles aussi, ont un peu du mal à se sentir vraiment elles-mêmes dans la mesure où elles ressentent un sentiment de manque, un sentiment d'incomplétude. Puisque le propre des enfants qui sont nés par une insémination avec donneur anonyme, c'est qu'elles ne peuvent pas répondre complètement à la question essentielle pour tout être humain. À qui dois-je être né ? Voilà, cette question, à qui dois-je être né ? Non seulement elles ne peuvent pas y répondre de manière complète, et puis surtout, le plus perturbant pour elles, c'est qu'elles savent que cette information est disponible. C'est-à-dire qu'elles savent que les médecins, par exemple, ont cette information, les médecins, les SECOS, par exemple, en France, hein, puisque ce sont les centres qui organisent le don de gamètes, les SECOS ont l'information, donc ils savent qu'une institution a une information qui les concerne, qui est importante pour eux, et à laquelle ils ne peuvent pas accéder. Donc le film Starbuck est un film qui amène à réfléchir sur le choix. Qu'est-ce que c'est qu'un choix ? Quels sont les éléments qui font que nous faisons tel ou tel choix ? Puisque encore une fois, David doit décider, hein, est-ce qu'il se révèle ou pas ? Est-ce qu'il sort de l'anonymat ou pas ? Et en fait, ce qui est assez intéressant dans le film, qui est une comédie, c'est que le film montre que le sens d'un choix, la signification d'un choix dépend notamment du contexte social dans lequel on doit faire ce choix et du regard qui est porté, par exemple, sur une pratique. En l'occurrence, si David hésite à se révéler, c'est aussi parce que le regard qui est porté dans la société sur le don de sperme est un regard qui n'est pas tellement valorisant. Ce qui est étonnant, d'une certaine manière, puisque c'est un acte qui pourrait être vu comme très généreux. Bon, dans le film, c'est rémunéré, mais par exemple, en France, c'est pas rémunéré. Donc, donner son sperme, c'est un acte, voilà, c'est un acte de générosité. En général, la société valorise ce qui est généreux. Et pourtant, autour de la question du don du sperme, il y a souvent un regard un petit peu culpabilisant. Alors, sans doute parce qu'il y a ce rapport à la masturbation, parce qu'il y a aussi peut-être des condamnations morales, voire religieuses, qui en fait hantent peut-être l'inconscient collectif. Dans le film, par exemple, certains doutent même de la santé mentale de ce donneur en série qui a donné lieu à tant de naissances. Alors, la première solution que trouve David dans le film, ce n'est pas de se révéler, c'est de rester anonyme, mais d'entrer en contact avec les jeunes gens, puisque lui, il a l'identité de ces jeunes, il sait qui c'est. Et donc, il commence à leur rendre des services, à les contacter. Alors, il se demande un peu pourquoi il fait ça, hein, puisqu'ils ne le connaissent pas, évidemment. Et donc, il s'autoproclame un petit peu leur ange gardien. Donc, il leur rend des services, il rentre dans leur vie. Et donc, il invente en fait un nouveau type de relation. Ce qui est assez intéressant dans ce film, comme dans d'autres, c'est qu'on voit que les nouvelles biotechnologies, notamment ici qui touchent à la procréation, mais on pourrait parler aussi du don d'organes, eh bien que ces nouvelles biotechnologies, en fait, elles obligent à inventer, à réinventer de nouvelles significations, de nouveaux types de sens, et puis aussi de nouveaux types de relations humaines, en fait. C'est que ces techniques-là, en fait, créent des situations familiales, des situations humaines, des situations qui sont radicalement nouvelles dans l'histoire de l'humanité et qui donc vont nous obligent déjà collectivement, par exemple à travers le cinéma, mais dans la vie réelle aussi, bien sûr, à inventer des nouveaux liens. Par exemple, le film montre assez bien comment les 142 individus, là donc les 142 issus du don de David, qui a priori n'ont pas d'autres points communs que ça, eh bien vont créer une forme de communauté. Alors, communauté qui est liée non pas seulement par la génétique, bien sûr, mais aussi par le fait qu'elles ont une cause commune, c'est-à-dire le combat judiciaire pour inciter le fameux Starbuck à se révéler. Donc, ces individus ne sont pas des frères et sœurs au sens social, bien sûr, au sens classique. Ils ont des parents d'intention qui les ont élevés, mais ils ont quand même une relation. Ils ne sont pas des étrangers. Et ils ont une relation aussi qui est à inventer, en quelque sorte, puisque cette relation n'existe pas institutionnellement et traditionnellement dans la société. Donc, il y a une invention symbolique, une invention lexicale. Je voudrais vous renvoyer ici, si ça vous intéresse, un très bon livre sur ce thème qui a été écrit par la sociologue Irène Théry, qui est une grande spécialiste de ces questions, à propos justement des gens qui sont nés par don de gamètes, qui s'appellent « Des humains comme les autres ». Alors, Irène Théry, il défend la levée de l'anonymat des donneurs, comme ça a été fait dans d'autres pays qui pratiquent l'insémination avec tiers donneurs. Et en fait, selon Irène Théry, cette levée de l'anonymat serait surtout pas en fait une manière de survaloriser le biologique ce qui est une critique qu'on fait souvent aux gens qui veulent lever l'anonymat. Ils disent « mais vous accordez trop d'importance au biologique ». En fait, au contraire, l'idée, ça serait de permettre aux individus, s'ils le désirent, hein, puisque les jeunes, dans les pays où l'anonymat a été levé, bien sûr, ils ont le choix, ils ne sont pas obligés de rencontrer le donneur, bien évidemment. Mais en tout cas, s'ils le désirent, ils peuvent compléter leur histoire d'une certaine manière, continuer à l'écrire et puis inventer une nouvelle relation avec cet individu, bien sûr, qui n'est pas leur père au sens social, mais qui est leur géniteur et donc qui a joué un rôle évidemment fondamental dans leur vie. Et ce que le film de Ken Scott montre justement à sa manière, sur son ton de comédie, c'est justement que ces nouvelles relations s'inventent avec une sorte de bricolage intersubjectif, en inventant des nouvelles fonctions, voilà, puisque le donneur n'est pas le père, mais il n'est pas rien du tout. Or, l'anonymat, d'une certaine manière, tend à renvoyer le donneur dans une sorte de néant, quelqu'un qui n'avait pas existé du tout, dont on ne connaît pas les intentions, dont on ne connaît rien. Et selon Irène Théry toujours, la peur qui entoure la levée de l'anonymat, elle viendrait en fait d'une croyance erronée selon elle, selon laquelle il y aurait deux hommes, le père social et le donneur, le géniteur, il y aurait deux hommes pour une seule place. En fait, si on part de l'idée qu'il n'y a qu'une seule place pour l'enfant, bien évidemment, on est dans une logique de la concurrence. Mais selon elle, il faudrait sortir de cette logique de la concurrence vers une logique de la complémentarité. Et ici, on peut faire un parallèle, bien sûr, avec les familles recomposées, dans lesquelles le beau-père ne se prend pas pour le père, mais à la fois, il joue un rôle auprès de l'enfant, par exemple, ou les parrains, les marraines, les oncles, les tantes, que sais-je. Et en fait, voilà, encore une fois, ces nouvelles techniques d'aide à la procréation impliquent d'inventer des nouvelles formes de parentalité, de famille au sens élargi. Et peut-être que ça fait peur quand on croit qu'il a existé ou qu'il existerait un type de famille classique, idéale, qui serait sans problème justement parce qu'elle correspondrait à un schéma ancestral. Alors là, on est aussi un petit peu dans le mythe, puisqu'il y a toujours eu d'abord des formes diverses de familles, il y a toujours eu des familles qui ne correspondaient pas au modèle dominant. Et puis, même dans les familles qui sont composées de manière assez classique par, disons, un couple hétérosexuel vivant avec ses enfants, etc., eh bien, il n'y a pas de famille sans complexité, sans tension à apaiser, sans problème à résoudre et aussi, d'ailleurs, sans signification à inventer, puisque je le disais tout à l'heure, ces nouveaux modes de procréation obligent à inventer de la signification, obligent à inventer de la relation, mais c'est peut-être le propre de la famille, toujours, d'obliger à inventer de la relation et de la signification. Et à cet égard, dans le film, c'est intéressant aussi parce qu'on voit que Starbuck, enfin David, a des relations en fait très, très compliquées avec son propre père, avec ses frères, qui sont pourtant là dans un cadre familial tout à fait classique, mais on voit que même si c'est une famille classique, disons, c'est une famille très compliquée. Alors, bien sûr, il y a d'autres films qui peuvent nous donner à penser ces nouvelles familles, qui ne relèvent pas toujours d'ailleurs de la bioéthique, qui peuvent relever tout simplement des nouveaux modes de parentalité, par exemple l'homoparentalité. Dans le livre Cinéma et bioéthique, je parle d'un film de Patrick Wang qui s'appelle In the Family, que je vous conseille aussi, qui est très intéressant sur la manière comme ça dont se reconfigurent les relations familiales autour d'un couple homoparental. Pour revenir à Starbuck, là, ce qu'on peut peut-être reprocher un petit peu au film, c'est son côté justement de comédie et la tonalité de feel-good movie, comme on dit aujourd'hui, qui fait qu'à la fin, on a l'impression qu'en fait tous les problèmes sont résolus. Voilà, qu'il n'y a plus de problème, qu'il n'y a plus de problème identitaire, qu'il n'y a plus de problème relationnel. Il y a une sorte de happy end comme ça, de fusion affective à la fin qui pose question. Parce qu'en réalité, on sait très bien que rien n'est simple, je l'ai dit, en famille en général et dans ces nouveaux types de familles, peut-être encore plus. Mais en tout cas, l'intérêt du film reste de montrer que les questions comme qu'est-ce que le vrai père, qu'est-ce qu'un vrai père, qu'est-ce qu'une vraie mère, sont peut-être en fait des questions qu'il faudrait poser différemment et qui sont peut-être mal posées. Voilà, l'adjectif vrai, en l'occurrence, est peut-être un adjectif qui renvoie à une vision un peu essentialiste de ce que serait un père, de ce que serait la famille, qu'est-ce qu'une vraie famille. Alors qu'en réalité, on se rend compte, lorsqu'on regarde comment fonctionnent les familles vraiment, on se rend compte qu'il n'y a pas d'idéal type, il n'y a pas d'archétype de la famille, mais qu'une famille, c'est toujours quelque chose qui se centre sur les relations, sur les usages, et dans lesquels, en fait, ce qui est intéressant à observer, c'est comment chacun se situe, enfin apprend à se situer dans sa propre famille, ou je dirais même dans ses familles. Puisque ce qu'on voit dans le film aussi, c'est que finalement, ces jeunes gens issus de dons, et on le voit aussi dans la réalité, ces jeunes gens issus de dons, quand ils cherchent le donneur, quand ils cherchent le géniteur, c'est pas du tout pour renier leur famille sociale, loin de là, mais c'est plutôt pour compléter en fait, pour ajouter quelque chose et pas pour l'enlever en fait, voilà. Et sur ce, je vous remercie pour votre attention.
C'est impossible d'être le père de 533 enfants. Mais c'est possible d'être leur ange gardien, de quelqu'un qui veille sur eux.
Regarde où tu marches.
Notre seule chance dans le procès, David, c'est de mettre l'avant le fait que t'es pas normal. C'est notre seule chance!
Je suis normal.
Ça fait 20 ans qu'on se connaît, je peux te confirmer que t'es pas normal.
Les chroniques bioéthiques
du professeur Rosmini
à retrouver sur radiogrenouille.com.